Ce que je voudrais partager avec vous ce matin, ça va, le son? C'est un passage, bien sûr, de la parole de Dieu. C'est Pierre qui nous donne ces quelques versets qui sont très importants. Le passage se situe dans 1 Pierre, au chapitre 2, et à partir du verset 4. Voilà ce qui est dit. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. On arrête la lecture là, mais on aurait pu continuer, bien sûr, parce que la suite a une valeur aussi importante que ce que nous venons de voir dans la lecture. Simplement, je voudrais faire une référence à l'Ancien Testament aussi. C'est Ésaïe, qui à peu près 700 ans avant, a proclamé de la part de Dieu cette parole. On retrouve ça dans Ésaïe chapitre 8, verset 14. Parlant déjà du Seigneur Jésus, il dira « Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. » Il ne va pas s'arrêter là. Un peu plus tard, dans Ésaïe 28, verset 16, il va dire « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Vous voyez, on sent qu'il y a un recoupement dans la parole. La parole est vivante. Premièrement, elle n'est pas liée, elle est puissante et tout le monde peut l'entendre. Mais l'entendre, c'est une chose, la vivre, c'en est une autre. Ces passages que nous venons de voir de la parole nous donnent des qualificatifs de cette pierre qui est unique. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Nous savons que cette pierre décrit la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Il ressort de ces passages sept qualités de cette pierre. Et si certaines de ces qualités ne sont qu'en Jésus, d'autres qualités doivent se retrouver dans le chrétien. La première de ces qualités, il est dit que c'est une pierre vivante. Alors que nous savons que la pierre naturelle est un matériau inerte, mais Christ, s'il est comparé à une pierre vivante, c'est parce que la mort n'a pas pu le retenir et que le troisième jour, il est ressuscité. Il nous communique la vie et pas une petite vie. C'est une vie abondante. Nous étions auparavant, bien sûr, sans Dieu, sans Christ, morts. Morts avec des cœurs de pierre. Et il y a une transformation qui se fait, c'est que ces cœurs de pierre sont enlevé pour mettre un cœur de chair où coule la vie. Vous retrouvez un peu ces passages dans Ézéchiel, mais dans Jean, au chapitre 10, verset 10, il nous est dit, et c'est Jésus qui parle, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » On sait que la mort sera toujours opposée à la vie. C'est un combat permanent qui durera jusqu'au retour du Seigneur. Et on comprend mieux pourquoi le Seigneur est comparé à une pierre rejetée. C'est le deuxième élément de cette fameuse pierre, une pierre rejetée. Littéralement, ça veut dire désapprouvée. Et désapprouvée par qui? Déjà par les autorités de l'époque, les autorités spirituelles, religieuse et politique. Mais aujourd'hui, on voit que rien n'a changé. Jésus n'a pas la place dans le credo religieux, si ce n'est que la place de l'enfant dans la crèche. C'est quand même triste si Jésus n'est qu'un enfant dans la crèche. Jésus est venu étant pleinement homme. Jésus a subi le rejet quasi général, car la génération de son temps attendait un Messie dominateur qui combattrait l'ennemi romain. Et la prophétie du psaume 118, verset 22, il dit que la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Et ça s'est pleinement accompli. Si vous lisez acte 4, verset 11, qui reprend ce psaume 118, va dire, et le verset 12 de acte 4, « Comme un marteau tapant sur une enclume pour faire comprendre la valeur de cette pierre, dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » J'aime ce verset. Aucun autre nom. Sous le ciel. Sous le ciel et dans le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Ce qui veut dire que si Jésus n'est pas la référence, notre rencontre n'a aucune valeur. On pourra se faire du bien entre nous. Mais vous ressortirez de ce lieu sans avoir saisi l'amour de Dieu, sans avoir saisi quelque chose de fort de la part de Dieu. C'est le pardon des péchés, le salut de notre âme. Troisième chose qu'on trouve dans cette pierre, c'est une pierre d'achoppement. Et bien sûr, ça se comprend beaucoup mieux à partir du moment où cette pierre a été rejetée, qu'elle devient pour tous ceux qui la refusent un manquement de la grâce pour eux. C'est Jésus qui, en terminant cette parabole des vignerons, va dire ceci. Ils ont tout compris, mais ils cherchèrent à l'arrêter. Vous voyez, religieux, c'est une chose. Mais connaître Dieu, c'en est une autre. Mais la crainte de la foule les a empêchés. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera s'écrasera. Je me rappelle, il y a des années en arrière, je me posais la question par rapport à ce verset. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, mais celui sur qui elle tombera sera écrasé. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire là? Jusqu'au moment où l'Esprit m'a éclairé. Et c'est vrai que cette pierre, elle est là, Jésus est là, et si on ne confesse pas que Jésus est le Seigneur de ma vie, on s'y brise dessus. Mais tant qu'il y a un brisement, il y a de la vie. Mais quand la pierre vous tombe dessus, c'est l'écrasement, ce qui veut dire qu'il n'y a plus rien. Et je crois que les religieux de l'époque, ils ont compris cela. C'est pour ça qu'ils voulaient l'arrêter à Jésus. Pourtant, ce verset, qui paraît assez dur comme ça, comprend tout le message d'amour. Ce qui veut dire le message qui est lancé par Jésus à cette foule de religieux, en leur laissant comprendre que s'ils changeaient de cap, s'ils faisaient un demi-tour sur eux-mêmes, ils pourraient alors recevoir cet amour. C'est le seul moyen qui est donné à la créature, quelle qu'elle soit, qu'on se dise religieux. Vous savez, moi je vois, j'ai quand même fréquenté les prisons, et même sans fréquenter les prisons d'ailleurs, mais quand on est en contact avec des personnes, dès que vous commencez à parler de Dieu, de parler de Jésus, on vous dit « Ah, mais j'ai ma religion. J'ai ma religion. » C'est terrible quand j'entends ça. Parce que ça veut dire « Je ne veux rien savoir. » Je me campe sur ma position et je ne veux rien savoir d'autre. Une autre partie de cette pierre, elle est angulaire. C'est la principale, c'est elle qui porte tous les murs de la maison. Hein? Vous savez, il y a cette parabole de ces deux maisons qui sont construites, une sur le roc et l'autre sur le sable. Et on sait ce qui se produit. C'est exactement ça. Et Paul va dire, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Oui, je répète, vouloir construire sans cette pierre angulaire, c'est ressembler un peu à cette fameuse statue du livre de Daniel. Elle était impressionnante, cette statue. Elle s'est levée très très haute. Elle était composée de plusieurs éléments. Et pourtant, il est dit que malgré sa splendeur, son immensité, son aspect qui était terrible aussi, une pierre, une petite pierre, se détacha sans le secours d'aucune main et frappa les pieds et mit en pièce cette statue faite d'or, d'argent, de fer, d'airain et d'argile. Et le vent emporta tout et il n'y eut plus aucune trace de cette statue. Mais la pierre, elle, devint une grande montagne et remplit toute la terre. Le choix de la pierre angulaire nous permet de ne pas être dans la confusion. Elle doit être, pour nous, le repère essentiel pour nos vies. Elle est un peu comme un phare. Elle indique le chemin, afin que nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui se laissent séduire par le monde. Cette pierre a aussi un autre aspect, c'est une pierre qui est choisie. Le choix de Dieu pour son plan rédempteur ne pouvait pas être réalisé que par lui-même. Et Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, choisit comme une offrande parfaite, sans défaut, sans tâche, s'est offert une fois pour toutes pour l'humanité. À cause de Jésus-Christ, je dis bien à cause de Jésus-Christ, nous sommes choisis. Car nous sommes, par Jésus-Christ, engendrés, devenant ainsi des enfants de Dieu. C'est un Pierre que nous n'avons pas lu, le verset 9, qui dit « Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que, je précise parce que ça c'est important, que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. » Voilà, ça c'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est votre responsabilité. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez être des témoins. Vous devez parler en son nom. Vous devez dire qu'est-ce que Jésus a fait dans votre vie, mais qu'est-ce qu'il peut faire aussi dans la vie de celui à qui vous parlez. Elle est aussi une pierre précieuse. Ah, une pierre précieuse. Oui. Notre Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, est la pierre la plus précieuse que nous pouvons avoir. Non seulement dans ce monde, mais aussi dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'elle est unique, comme il est le Fils unique de Dieu. Cela rappelle, vous savez, cette parabole encore, la parabole de la perle de grand prix, qu'on trouve dans Matthieu. Il est dit que le royaume de Dieu est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il en trouve une merveilleuse, magnifique, de grand prix. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il vend tout ce qu'il a. Il vend tout ce qu'il a pour acheter cette pierre. C'est pas sans nous rappeler ce jeune homme riche qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens, qui vient à Jésus. Et quand Jésus lui dit « Vends tout et suis-moi », il s'en alla tout triste. Vous savez que ça, c'est un danger pour le chrétien, quand on a trop de biens. C'est un grand danger. Parce que dans l'histoire après, souvent, je ne dis pas toujours, on se fie à ses biens, plus qu'au Seigneur. Je ferme un peu la parenthèse, mais je crois qu'il est bon, c'est bon d'être dit, parce qu'on voit trop de chrétiens qui deviennent des matérialistes, pensant qu'à leur bien et comptant que sur leur bien. Non, vous faites erreur, je regrette, je vous le dis, Simplement, si vous confiez à vos biens, vous êtes malheureux. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est selon ce que Dieu nous demande. Regardez Jésus dans les évangiles. Même la fois où on lui demande de payer un impôt, il n'a même pas d'argent pour payer l'impôt. Il va d'ailleurs dire à Pierre, il va dire, mais tu te rends compte, est-ce que ce n'est pas des étrangers qu'on demande de payer la taxe du péage? Pourquoi on demande au fils? Il va au bord de l'eau, lance une canne, pêche un poisson, tu sortiras le stataire, tu le donneras pour toi et pour moi. Oui, mais c'est ça. Il ne faut pas se confier trop dans ses biens. Je ne dis pas qu'on ne doit pas en avoir. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus. On peut avoir des biens. La question, c'est comment on les gère. C'est l'apôtre Jean qui, dans l'Apocalypse, au chapitre 5, versets 6 et 10, il dit « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. » Vous savez que longtemps, il y avait un chant qui parlait d'agneau immolé. Je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, nous, on le chantait. Et je ne le chantais pas, moi. Immolé. Parce que immolé, ça me faisait penser au feu. Et moi, je disais non. Jésus n'a pas été immolé, dans le sens qu'on le conçoit maintenant. Il a fallu du temps encore, vous savez, c'est ça. L'enfant de Dieu, hein, je ne sais pas, peut-être pas pour vous, vous avez tout compris de suite, vous avez lu la parole, de suite elle a fait boum, un travail en vous. Mais moi, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu des années pour arriver à saisir la subtilité de la parole de Dieu. Jusqu'à un moment de comprendre que immoler, c'était s'offrir. Et c'est vrai que là, l'agneau qui était là, comme immolé, et au verset 10, il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Père, et ils régneront sur la terre. On va voir la dernière partie de cette pierre, la septième, pour vous montrer qu'elle est merveilleuse, cette pierre. Hein. Elle est une pierre éprouvée. Littéralement, ça veut dire qu'elle est solide, résistante à tout. Rien ne peut la faire varier. Non seulement dans la position, dans la couleur, rien. Une pierre éprouvée qui a fait ses preuves. Et on peut dire que c'est l'accomplissement de l'œuvre à laquelle a été destinée cette pierre. Mais cela encore nous ramène au pied de la croix, et en particulier de ces dernières paroles du Seigneur Jésus. Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli. Alors si vous pensiez que pour vous, il n'y a rien d'accompli, il faut revenir au pied de la croix. Et vous allez comprendre que là, si vous venez au pied de la croix, mais dans une attitude, hein, que vous dites, Seigneur, je n'ai pas tout compris, le Seigneur vous parlera. Le Seigneur vous révélera ce qu'il a pu révéler à tous ceux qui, à travers toutes les générations qui ont été avant nous, il a révélé cet amour, et un amour qui se donne entièrement. Alors s'il fallait apporter une conclusion, je dirais que notre vie de croyant doit être le reflet de cette pierre unique. Si Jésus est notre modèle, nous sommes appelés à lui ressembler. On doit se reposer sur lui entièrement pour être des pierres vivantes. Afin de former, bien sûr, cette maison spirituelle et en même temps offrir un parfum de bonne odeur à notre Dieu. C'est Paul qui disait aux Corinthiens, au chapitre 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 et 16, Paul disait ceci, « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Alors je vais vous laisser une interrogation. Vous en ferez ce que vous voudrez. Mais j'espère qu'elle vous fera réfléchir. De quel côté êtes-vous? De quel côté je suis? Moi, je me suis posé la question. Et je sais de quel côté je suis. Voilà ce que je voulais dire de la part du Seigneur sur cette fameuse pierre qui est l'élément parfait pour chacune de nos vies, à condition que nous venions tels que nous sommes, sans prétention, mais simplement en reconnaissant que si lui n'a pas la première place dans mon cœur, tout le reste est vain. Prions. Merci Seigneur parce que ta parole est parfaite Seigneur et non seulement elle est parfaite mais elle manifeste un tel amour Seigneur que nous ne pouvons que nous prosterner devant toi Seigneur et te dire Seigneur merci pour ce que tu as accompli à la croix de Golgotha Seigneur. Personne ne pouvait l'accomplir. Il n'y avait que toi qui pouvais le faire Seigneur. Et c'est vrai Seigneur que tu as été abandonné des hommes, tu as même été abandonné du Père, Seigneur, à ce moment-là. Et pourtant, Seigneur, tu as été jusqu'au bout. C'est pour ça que tu pouvais dire dans tes dernières paroles, tout est accompli. Et c'est vrai, Seigneur, que c'est une joie de savoir que cet accomplissement permet encore aujourd'hui à des hommes, des femmes, de te rencontrer, de connaître cet amour si grand, si puissant. Nous amène, Seigneur, à confesser que tu es Dieu dans notre vie. Merci, Seigneur, de bénir mes frères et mes sœurs qui sont là et de parler au cœur de chacun d'entre nous, Seigneur, afin que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen.
Voilà, je partage avec vous les annonces pour la semaine. Si vous ne l'avez pas remarqué, ce sont les vacances. Le programme est un petit peu plus léger, bien plus léger même. Samedi, il y a le mariage de Florian et Rebecca. Florian est donc un des enfants de Raymond et Pascal. Florian s'est fait baptiser ce printemps. Alors sachons entourer aussi les jeunes dans l'église, ceux qui font une démarche avec Dieu, sachons aussi les entourer et puis les accompagner aussi. Dimanche prochain, on a un culte, mais c'est un cinquième dimanche. C'est donc un culte de témoignage. Donc voilà, c'est important aussi de partager ce qu'on vit avec Dieu, ce qu'on reçoit de Dieu, les manifestations aussi de Dieu dans nos vies, autour de nous. Et voilà, on vous invite à vous préparer dans ce sens-là. Le mardi d'après, donc le 2 août, il y aura donc l'étude biblique pour les aînés à 14h30. Voilà. Une annonce diverse, on a eu le club d'été, moment semaine magnifique, béni. Si vous avez des frais à vous faire rembourser, faites-le, ne traînez pas, on aime bien aussi boucler les comptes à un moment donné. On laisse jusqu'à la fin du mois pour que vous communiquiez les notes de frais pour qu'elles soient remboursées. Donc vous pouvez me les faire parvenir, voilà, ou les faire parvenir à Raymond ou Pierre. Et puis on fera suivre. On a reçu une information de l'Alliance évangélique européenne. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais c'est l'Alliance évangélique européenne, concernant une nouvelle loi antiterroriste qui a été votée en Russie. Ce n'est pas forcément évident. Alors, je l'ai imprimé, ce communiqué, donc il est sur le panneau derrière la sono. L'Alliance évangélique européenne est extrêmement préoccupée parce que la Russie a adopté le 6 juillet passé une nouvelle loi antiterroriste, entre guillemets, limitant de manière considérable la liberté religieuse. Cette loi doit entrer en vigueur donc le 20 juillet, donc elle est déjà entrée en vigueur. Alors voter le 6, paf, entrer en vigueur le 20, ça va vite. Cette loi dit entre autres: désormais, seuls les membres inscrits d'une organisation enregistrée auprès des autorités seront en mesure de partager leur foi. Des discussions au sujet de la foi ne pourront avoir lieu que dans des bâtiments religieux enregistrés auprès des autorités. Il sera désormais interdit de partager sa foi dans les foyers. Témoigner de manière informelle de sa foi entre individus ne sera plus autorisé. Le témoignage via les réseaux sociaux sera également soumis à des restrictions et de fortes amendes devront être payées en cas d'infraction à la loi. Alors pensons à nos frères et sœurs de Russie, à l'Église en Russie. Face à cette loi, comment est-ce qu'elle va se positionner? Que Dieu les accompagne, leur donne la sagesse, que Dieu parle aussi aux autorités. Voilà, remettons ce sujet à notre Dieu. Des nouvelles des uns et des autres dans leur santé. Loulous Binden est hospitalisée suite à une grande fatigue. Le retour à la maison est prévu la semaine prochaine. Et alors, il ne souhaite pas recevoir de visite qui le fatiguerait encore plus. Jean-Paul a pu le visiter la semaine passée. Prions pour Loulou, prions pour Ruth aussi. Que Dieu les garde, que Dieu les bénisse vraiment dans ces moments qui sont difficiles, ces moments de la vieillesse qui sont pas toujours faciles et qui là pour eux sont vraiment particulièrement difficiles. Des nouvelles de Roland. Roland devait avoir un rendez-vous avec la cardiologue mercredi. Alors il n'a pas pu avoir le rendez-vous bêtement pour une question d'organisation entre la secrétaire et eux. Il devait rappeler, le téléphone n'était pas libre, etc. Pour le coup, il a pu avoir la cardiologue par téléphone. Donc le prochain rendez-vous qu'il aura, c'est donc le 23 août. Les recherches n'ont pas permis de savoir pourquoi est-ce que son ventricule gauche de son cœur a enflé, pourquoi est-ce qu'il a augmenté de volume. Par contre, les recherches qui ont été faites n'ont rien donné de négatif. Ils n'ont pas trouvé, mais ils n'ont pas non plus trouvé de cause alarmante par rapport à cela. Alors dans l'attente, Roland est toujours sous traitement médicamenteux pour le protéger principalement. Alors c'est une expérience de longue patience. C'est pas forcément simple d'être fatigué dans l'incertitude aussi, et puis dans l'attente, et puis de pas pouvoir faire grand chose de ces journées. Donc pensons à eux. Si vous passez leur faire un petit coucou, peut-être un téléphone avant, je pense que c'est toujours le bienvenu. C'est vraiment bien de penser à Roland et Damaris. Didier. Alors, Nicolas a vu Didier cette semaine, suite à sa petite opération. Si tu veux juste nous donner quelques nouvelles.
Bonjour à tous. Didier, oui. Je fais pouf parce que c'est dingue quoi de voir ça. Enfin, il faut être super positif. Moi, j'ai trouvé un homme apaisé. J'ai trouvé un homme qui avait une très bonne figure. J'ai trouvé un homme qui était posé, qui a vu les médecins, qui a pu discuter. Il a besoin de savoir ce qu'on va lui faire. J'ai trouvé un homme pas du tout abattu. Et pourtant, vous savez tous tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enduré, toutes ses souffrances, toutes ces opérations à répétition. Moi, le premier, quand je l'ai vu, je dis, mais je ne supporterai pas le quart de ce qu'il a supporté. Mais j'ai vu un homme qui remonte la pente et qui sait, quand tu dis Georges, ouais, il faut savoir qui on est, où on va. Je crois que lui, il sait vraiment. Il est rayonnant. Voir un malade comme ça, moi, j'ai presque pleuré de voir un type comme ça. On a échangé, on a passé une longue visite, et ça se passe bien. Il est nourri par une poche, bien sûr. Tout ce qui devait être fait avec lui, c'est très bien passé. Maintenant, je pense que peut-être d'ici la fin de la semaine, il va entrer. Donc, il y aura bien sûr pour lui une autre façon de se nourrir, puisque ça sera un complément. Hein. Il pourra manger aussi du solide, mais il y aura deux manières de se nourrir. La seule chose, c'est qu'il est très maigre, mais je dirais pour tout ce qu'il a vécu, pas plus que ça, quoi. C'est normal. Donc, voilà, on a vraiment échangé beaucoup. On échange aussi beaucoup par mail. Hein. Il m'envoie des petits mots, je lui réponds. Et puis, j'ai vraiment eu du plaisir à le visiter. En ce moment, moi, ça me fait du bien aussi parce que je travaille sur un terrain d'un côté avec des chrétiens, de l'autre avec des hommes politiques, puisque je suis en train de restructurer un peu le Resto du Cœur. Et je peux vous dire qu'on est dans une période où tout le monde se pose beaucoup de questions, bien sûr. Mais je crois que nous, chrétiens, on doit inciter les gens à dire « Et quelles bonnes questions faut qu'on se pose ?» Et il faut qu'on arrête de se déchirer pour des sujets qui n'en valent pas la peine. Mais voilà. Donc Didier, vous remercie bien sûr pour les prières, pour l'attention. Et je crois qu'il faut être positif parce qu'il y a la victoire de Dieu quelque part avec cet homme. Il a encore beaucoup de choses à nous montrer. Et je me réjouis un jour qu'il soit assis parmi nous et qu'il ose dire tout ce qu'il a sur le cœur parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà.
Voilà, donc juste pour préciser, la petite opération que Didier a eue était pour lui implanter un petit bout de tuyau qui permet à ce que la nourriture aille directement dans son estomac. Suite à ses différents problèmes de santé, il a une grosse difficulté de déglutition. Et le problème, c'est que la nourriture, lorsqu'elle va du mauvais côté, lorsqu'elle va dans les poumons, ça entraîne des infections. Et c'est principalement à cause de ça qu'il était beaucoup plus maigre, qu'il dépérissait. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette intervention a été décidée. Donc, voilà, maintenant, il pourra être mieux nourri. Donc, il pourra, comme Nicolas le disait, toujours se nourrir par voie normale, ainsi qu'avoir de la nourriture directement qui va directement dans l'estomac. Voilà, donc prions pour ces personnes. Je vous invite de vous recueillir et je vais prier pour ces personnes. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre tes enfants qui souffrent d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, nous te remettons Loulou, que tu l'accompagnes jour après jour, que tu le remplisses de ta présence. Nous te remettons aussi Ruth, que tu la bénisses pendant ces moments difficiles. Que tu les accompagnes vraiment et qu'ils soient vraiment portés par ta présence. Nous te remettons Roland, que tu l'accompagnes aussi, que tu lui permettes d'avoir la patience qu'il faut pour attendre. Bénis aussi Damaris, qui est à ses côtés, qui s'occupe bien de lui. Nous te remettons aussi Didier, afin que tu le renouvelles. Merci pour le témoignage qu'il nous donne. Nous te remettons aussi Loredane, que tu la bénisses aussi, que tu la fortifies tout particulièrement. En ton nom, Seigneur. Amen. Cette semaine, comme chaque semaine, on vous invite à prier pour un pays dans lequel il y a de la persécution, et on vous invite à prier pour les chrétiens de Malaisie, donc dans les îles. Voilà, c'est le numéro 30, dans les îles tout en bas à droite. Juste une petite info, dans le classement de portes ouvertes, la Malaisie est passée de 37 ou 38, la position qu'ils avaient, à la position 30. Donc il y a plutôt une augmentation de la persécution dans ces pays. Voilà, s'il n'y a rien d'autre à partager, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets dans Colossiens. Colossiens au chapitre 2. En effet, c'est en Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.